Bonjour, la rage se propage à Sorigny sur le 97.4 et sur www.la-rage.fr. Donc on est aujourd'hui avec Hélène Denizard. Hélène, bonjour.
Bonjour.
Donc est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, qui vous êtes, quelles études vous avez fait, voilà, qu'est-ce qui vous a permis d'arriver jusqu'à la médiathèque de Sorigny?
Alors, j'ai 34 ans, j'ai un bac littéraire, j'ai passé un DUT à Tours, documentation. Après, j'ai fait un DUST à Limoges, métier de la culture option médiathèque. Et après, j'ai passé les concours pour rentrer dans la fonction publique territoriale.
D'accord.
Et j'ai déjà travaillé dans 3 ou 4 bibliothèques avant d'arriver à Sorigny en 2009, décembre 2009.
D'accord, donc ça ouvre vers une question pour moi, bibliothèque, médiathèque, déjà un petit peu la différence qu'on peut avoir, et à Sorigny, est-ce que c'est une bibliothèque ou une médiathèque? Est-ce qu'on peut avoir des infos différentes sur internet? Personnellement, sur le site de la mairie, j'ai pu voir bibliothèque et après médiathèque, et voilà. Donc est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est une médiathèque? Est-ce que c'est une bibliothèque? Et quelle est la différence?
En fait, la différence qu'on fait entre médiathèque et bibliothèque, de manière générale, c'est que dans une médiathèque, on a plus que des livres, on a d'autres supports. Comme
d'accord.
Le DVD, le CD et autres jeux vidéo, etc. Donc normalement, à Sorigny, c'est une médiathèque, puisqu'il
d'accord.
y a des DVD et des CD. Mais après, si on dit bibliothèque, on n'est pas choqué non plus, on comprend ce que c'est. À Sorigny, en fait, c'est même une bibliothèque municipale associée. Donc c'est un jargon un peu bizarroïde, mais ça explique pourquoi elle est si grosse et pourquoi on a autant de livres. Et autant d'une offre aussi importante que dans une toute petite commune, c'est pas très courant. C'est parce qu'en fait, on travaille beaucoup avec le conseil général qui nous a prêté en fait la majorité de nos ouvrages.
D'accord.
Pour qu'on puisse, nous, être une bibliothèque ressource pour les bibliothèques du canton. Donc
d'accord.
Les autres bibliothèques en fait, de la CCVI viennent se servir dans nos fonds, en fait, dans nos collections.
D'accord, vous êtes un peu la réserve de toutes les bibliothèques médiathèques de
c'était
la CCVI.
Voilà, au départ, c'était ça. Maintenant, ce n'est plus vraiment tout à fait vrai, puisqu'on est en réseau et que toutes les bibliothèques sont connectées entre elles et que, en fait, quand on s'inscrit dans une bibliothèque, on est inscrit dans les 8.
D'accord.
Et que quand on a une carte de bibliothèque, que ce soit celle de Sorigny ou d'Èvre, on peut aller emprunter où on veut et rendre où on veut. Et donc, c'est un peu moins... On est un peu moins la réserve, on va dire, mais
d'accord.
Du coup, les gens
ah,
se
donc
déplacent.
Ça, oui, c'est une bonne info, c'est pratique à savoir pour les auditeurs. Donc, quand on a la carte, si on passe par Èvre et qu'on voit un livre qui nous intéresse, on peut l'emprunter à Èvre et le rendre à Sorigny.
Tout à fait.
Par exemple. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des événements que vous avez pu avoir sur l'année scolaire ou même sur les autres années, les choses un peu marquantes qui ont pu se passer dans la bibliothèque ou dans la médiathèque, mis à part l'installation de l'antenne chez vous sur le toit ce matin?
C'était le top. Nous, en fait, depuis 5 ans, on essaye de marquer en fait, l'anniversaire de la médiathèque tous les ans au mois de mars, donc, parce qu'elle a ouvert en mars 2010, elle a 5 ans. Donc tous les ans au mois de mars, on a un mois où on fait beaucoup d'animations, et ce mois-ci, enfin le mois dernier du coup, on a fait des choses autour du cirque. Donc on a fait des ateliers, j'ai des bénévoles qui travaillent avec moi, et une salariée qui travaille avec moi. Qui a proposé des ateliers autour du cirque. On a fait venir une compagnie de Montbazon. Je ne me rappelle plus de leur nom. C'est pas grave.
On les retrouvera.
On les retrouvera. Ils sont à Montbazon, ils font du cirque, il n'y en a qu'une. Et ils sont très bien en plus. Voilà. Donc du
cirque
coup,
bibliothèque, médiathèque, je vois pas trop le...
Et
ben
on a contacté en fait pas mal de gens et c'est vrai qu'il y a des cirques qui nous ont dit bah non, nous on travaille que sous chapiteau, donc là c'est pas possible, ou alors on met le chapiteau dans la prairie, mais ça coûte ça coûte vraiment très cher. Et eux justement à Montbazon, ils font quelque chose qui est adapté aux bibliothèques et aux écoles, qui se passe pas sous un chapiteau, mais qui rappelle en fait les numéros de cirque. Donc il y a le clown, il y a le jonglage.
D'accord. Donc des ateliers dans un coin de la bibliothèque, jonglage.
Voilà, on a fait un spectacle dans la médiathèque.
D'accord.
Et il y avait 90 personnes, je crois.
D'accord.
Ça a bien marché.
Très bien. Mais écoutez, merci. On va faire une petite pause musicale et on va enchaîner ensuite avec vos coups de cœur littéraires et avec les projets à venir de la médiathèque.
Ok. We'll be right back.
dream about the sea, about the sex and the girls. They dream about the sea, about the sex and the girls. Forget their night, get ready for the action. See them on the front line for revolution. Only if a man will know where I'm Montana. I'd like to have the bimbos of the Berlusconi, and I could be the beach near Copacabana, and I would be as rich as Alfredo Spaggiari. My Cadillac would get on the Santos on MTV. My life would look like a Martin Scorsese movie. I get my Durango up every time I play GTA, killing all the nerds, YMCA. We'll be right back.
retour à Sorigny, la rage se propage à Sorigny avec Hélène Denizard pour la deuxième partie de cette émission concernant la médiathèque de Sorigny. On va enchaîner avec les coups de cœur littéraires que vous m'avez amenés. Je vois, si je ne me trompe pas, quatre livres sur la table. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces livres ?
Oui, alors j'ai amené un peu de tout pour essayer de couvrir un peu tous les goûts éventuellement. Alors le premier, c'est un manga qui s'appelle Darwin's Game. De Flip Flops. Alors Flip Flops, c'est un pseudo pour cacher en fait deux auteurs japonais, un scénariste et un dessinateur. C'est un manga qui sera en 5 ou 6 tomes, pas plus, ce qui est pas mal parce que du coup les mangas, nous, c'est un peu notre bête noire en bibliothèque parce que des fois on part sur 60 tomes
voilà,
et on sait pas où les mettre et ça nous pompe notre budget. Donc ça, celui-là, voilà, c'est le manga parfait parce qu'il est en 6 tomes. Et en plus, il est super bien. Alors, c'est plutôt pour adultes, mais ça peut être lu à 14 ans et plus. Hein, voilà. Alors, c'est l'histoire de Kaname Sudo, un lycéen, qui reçoit une invitation sur son téléphone portable pour rejoindre un jeu vidéo qui s'appelle Darwin's Game. Et ça promet en fait des sommes d'argent énorme, donc forcément c'est, ça appâte un peu.
Attirant.
Voilà. Ce qui ne sait pas, c'est que en cliquant oui, je rejoins le jeu et en téléchargeant le jeu, il va donc rentrer dans un jeu qui oblige ses joueurs à combattre à mort, mais dans la vraie vie.
Ah oui, d'accord. Quelques freins.
Dans la vraie vie, voilà. Donc, en rentrant du lycée ce jour-là, en fait, il prend le métro et il se fait attaquer par un type qui est déguisé en panda. Donc, ça, c'est quand même le truc un peu sympa, un peu décalé, on va dire, de la BD. Sauf que, voilà, c'est drôle de minute parce qu'en fait, le panda, il a quand même un couteau de cuisine grand comme mon bras et il l'attaque et il veut le tuer, en fait. Donc il comprend pas forcément tout de suite le lien, mais il va finir par comprendre que c'est le jeu en fait qui fait qu'il y a des gens qui l'agressent un peu partout dans sa ville. Et donc on va le suivre le pauvre en travers de la ville en essayant de pas se faire tuer. Sauf que à un moment donné, même s'il essaye lui de pas, il dit non mais en fait je peux pas jouer. c'était une erreur. C'est trop tard. Il a cliqué et il va être obligé en fait de se défendre quoi.
D'accord.
Au péril de sa vie. Donc
alors d'un point de vue visuel, là je le vois de loin devant moi, en tout cas la couverture, c'est pas ce qu'on pourrait être habitué pour du manga, enfin, je le trouve noir, après l'histoire a l'air relativement noire pour le coup,
oui.
Mais voilà, on a plus l'habitude de voir des mangas avec des choses très colorées, des choses souvent, voilà, des couvertures bien chargées, là, celle-là il y a une tête de mort, j'imagine le personnage principal.
Voilà, c'est ça,
c'est
tout
très noir.
Oui, c'est quand même assez. En fait, c'est dans la mouvance des mangas qui s'appellent. Le genre, c'est Revival, c'est-à-dire Battle Royale, qui ont été adaptés au cinéma après. Où voilà, il y a des lycéens qui doivent survivre et s'entretuer. C'est un peu dans cette veine-là. Donc, ceux qui sont habitués à ça, il n'y a rien de nouveau. Hein. C'est toujours un peu le même genre. Mais c'est efficace. Ça reste très efficace parce qu'en fait, il n'y a pas de temps mort. On rentre dans l'histoire tout de suite parce que direct, voilà, il rentre dans le jeu, il se fait agresser.
Et pour le coup, le support est original.
Voilà, il se fait poursuivre et on est vraiment en haleine tout le long, quoi. Et y a vraiment, on a envie de savoir aussi s'il va s'en sortir, comment il va s'en sortir, est-ce qu'il va être obligé de tuer. Et puis qui il y a derrière ce jeu? Parce que bien sûr, il y a une enquête, parce qu'il y a des morts un peu partout dans la ville, puisqu'il n'est pas le seul concerné. Donc on retrouve on les retrouve pas, c'est ça le truc, c'est qu'on retrouve pas les corps. Donc, mais il y a quand même des disparitions qui sont signalées tous les jours. Donc la police finit quand même par enquêter. Donc on imagine qu'on va finir dans le cinquième ou sixième tome, le dernier tome en tout cas, par savoir qui il y a derrière et pourquoi ce jeu et à quoi ça sert et est-ce qu'il y a une vengeance, etc., etc.
Et là en édition, on est au combien? On est à quel tome?
Alors nous à la bibliothèque, on a les trois premiers.
D'accord. Mais donc déjà, on peut bien avancer dans l'histoire et
voilà,
déjà commencer à s'intéresser.
Il y en a 5 qui sont sortis au Japon et je crois qu'en France, il y en a 4 seulement qui sont sortis.
D'accord.
Mais bon, ça devrait arriver assez vite.
Donc une petite dose de suspense aussi en attendant les prochains.
Oui, voilà.
Le suivant, je ne le vois pas d'ici, Les Autodafeurs de Marine Corteron.
Voilà, c'est un roman... ado, on va dire, parce que c'est dans la collection Do à Do, donc du Rouergue, les éditions du Rouergue. Mais en fait, on peut lire quand on est adulte et même quand on est enfant, parce que je pense qu'un bon lecteur de 10-12 ans peut le lire. Donc c'est une trilogie, c'est le tome 1, ça s'appelle Mon frère est un gardien, en fait, le tome 1. Et il y aura, oui, il y aura donc 3 tomes. Hein. Alors, c'est l'histoire d'Auguste, qui a 14 ans, qui est donc un ado, qui a un caractère bien trempé, mais une vie, somme toute, assez normale. Il habite à Paris, voilà. Et c'est aussi l'histoire de sa petite sœur qui s'appelle Césarine, qui a 7 ans et qui est autiste. Mais une autiste un peu Rain Man, assez géniale, très dans les chiffres. Elle est très... très froide, elle, il faut que tout soit logique et raisonné, elle est très, c'est un personnage vraiment très rigolo, voilà, elle est vraiment dans son monde en fait, vraiment à part, mais ils sont très liés tous les deux, et ils arrivent bien voilà, à communiquer tous les deux, elle arrive bien à lui faire ressentir ce qu'elle a besoin, et, voilà, parce qu'elle n'est pas très sociable quand même de manière générale, mais avec son frère ça se passe bien. Et en fait l'histoire va être racontée par, tour à tour par les deux en fait. Un coup c'est lui qui parle, donc lui c'est une narration assez normale dont on est, à laquelle on est habitué, et puis après de temps en temps on a des extraits du journal intime de Césarine qui elle du coup est très, très froide, qui s'intéresse que aux faits, elle raconte pas du tout ce que ça peut lui faire, ce qui se passe, voilà, elle n'est pas du tout dans l'affect, elle est vraiment que dans les faits, et puis c'est bloum bloum, voilà, c'est comme ça. C'est assez rigolo de voir la différence de point de vue des deux personnages, et puis du coup, on s'attache aux deux en même temps. Mmh. Et puis ça casse un peu la narration, du coup, c'est pas mal. Alors, l'intrigue. Leur père meurt d'un accident de voiture très suspect. Dès le départ, en fait, c'est le premier chapitre, hein, boum. Du coup, donc, ils habitent à Paris, comme le deuil est difficile, ils vont déménager chez les grands-parents paternels, dans un bled, voilà, en France, c'est pas indiqué lequel, mais voilà, c'est un village, on va dire. Et là-bas, en fait, Auguste, l'ado de 14 ans, va apprendre que son père n'est pas mort dans un accident, mais a été assassiné par une société secrète et mystérieuse qui s'appelle les Autodafeurs, d'où le titre.
D'accord.
Qui cherche, en fait, à supprimer les savoirs anciens.
Oula.
Ouais, c'est un peu historique. Et voilà, on va partir sur les Templiers, sur Alexandre le Grand, sur les projets des grandes bibliothèques dans l'histoire.
D'accord.
Et en fait, voilà, eux, sa famille, leur famille, Auguste et Césarine, font partie de la confrérie. Et c'est une société secrète qui lutte contre les autodafeurs. Voilà. Et donc, voilà, eux, leur rôle, ça va être de protéger les savoirs pour les transmettre au peuple. Alors que les autodafeurs, eux, ont pour mission de supprimer, de détruire et de faire en sorte que le peuple en sache le moins possible.
Voilà, en rapport, j'imagine le nom en rapport aux autodafés qui étaient les bûchers
livres brûlés,
de livres.
Exactement, puisque eux, quand ils en trouvent, ils les suppriment.
D'accord.
Voilà, donc le pauvre Auguste, non seulement il apprend que son père a été tué, mais qu'en plus il va falloir qu'il reprenne le flambeau familial, parce que sa vie est en danger, parce que son père, s'il a été tué, c'est parce qu'il avait découvert quelque chose d'important, mais que malheureusement il n'a pas eu le temps d'en parler à personne. Donc il va falloir qu'il rentre dans l'aventure. Et sa petite sœur va bien sûr jouer un rôle important,
oui.
Elle aussi, grâce à ses connaissances et grâce à ses calculs et ses facilités mathématiques, on va dire.
Alors c'est marrant, parce que quand vous le racontez comme ça, on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations et beaucoup de niveaux d'intrigue. Le côté, on va dire, un petit peu autisme et peut-être un petit peu livre... social, je ne saurais pas comment l'expliquer, mm-hmm. Mais voilà, un petit peu sur
tout
l'autisme avec, avec la petite sœur, le rapport au père et voilà, le deuil, tout ça, le côté sur la culture avec les sociétés secrètes et peut-être quelque chose qui est peut-être plus dans la science-fiction. Parce que...
ouais.
Donc, est-ce que ça fait déjà, est-ce que ça fait pas trop d'infos? Et est-ce que c'est
de
la littérature
ado,
donc j'imagine que ça a dû être aéré pour que ça reste quand même un minimum lisible.
Bah, c'est vrai, c'est quand même.
En plus, comme ça, en 3 tomes.
Il y a 329 pages, hein, c'est quand même un bon pavé. Donc c'est pour les bons lecteurs, mais en même temps le style est vraiment facile, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment facilement dans l'histoire, vu que en plus Auguste a tendance à parler un peu jeune et la narration est assez simple. Après ça commence à être un peu plus complexe quand on rentre dans les détails des autodafeurs, les confréries, les machins. Là j'avoue que ça a été parfois un peu plus confus, mais finalement c'est assez expliqué longuement, on va dire.
Le style rend l'intrigue compréhensible.
Oui, ça va, c'est pas non plus trop compliqué, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de couches, on va dire, dans ce livre, parce que à la fois on va suivre un ado, parce que bien sûr il va y avoir une petite histoire d'amour, bien sûr il a ses histoires de collégiens, oui c'est clair. Césarine, elle, c'est vraiment le côté un peu social où on va s'attacher à elle malgré son handicap ou peut-être même justement grâce à ça parce qu'elle est vraiment particulière et très rigolote et que elle va rencontrer une petite fille qui s'appelle Sarah dans l'institut où elle prend des cours qui est trisomique, donc du coup on va aussi parler de ça et elle la trouve géniale parce qu'elle est toujours en train de se marrer alors qu'elle elle rigole jamais parce qu'elle voit pas l'intérêt, la vie c'est des fesses et il n'y a pas de bonheur en fait, donc elle voudrait bien qu'elle lui apprenne à sourire. C'est assez rigolo. Les parents qui sont dans leur histoire, qui datent depuis des siècles et des millénaires, et du coup, on a des petites notions d'histoire. C'est pas forcément trop mon truc, mais ça reste quand même light. Pas non
D'accord.
plus. Ça reste abordable, je pense vraiment à des bons lecteurs en début de collège.
D'accord, donc le titre complet, c'est...
Mon frère est un gardien, les autodafeurs, tome 1 de Marine Carteron.
Voilà, donc à retrouver à la médiathèque de Sorigny.
Et on a acheté le tome 2, c'est pareil, on va pouvoir enchaîner les deux. Le 3 sort qu'à la fin de l'année, je crois.
Le troisième, Sofilm, le jour où 30 histoires insolites du cinéma.
Voilà, alors ça c'est un petit documentaire. T'as vu, ils sont neufs, ils sont même pas couverts et tout, je les ai reçus ce matin.
En avant-première.
Alors, c'est ça. Alors, le jour où 30 histoires insolites de cinéma, Sofilm, en fait, c'est le nom d'un magazine, une revue de cinéma, je connaissais pas, mais voilà. Et il y a eu plein d'anecdotes qui ont été relatées dans cette revue et ils en ont fait un recueil. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va apprendre des choses. Le cinéma, en général, ça plaît à tout le monde. Donc quasiment tout le monde a vu en plus ou connaît les acteurs qui sont cités ou les actrices. Et on apprend des petites anecdotes rigolotes. Par exemple, je crois que la première ou la deuxième, c'est le jour où Cary Grant s'est soigné au LSD. Alors, moi, c'était une histoire que je connaissais pas du tout. Et en fait, le pauvre Cary Grant était un peu dépressif à une époque. Et il est allé dans une clinique psy, où on lui a prescrit des petites pilules. Sauf que plusieurs années plus tard, on s'est rendu compte que c'était une drogue qui s'appelle le LSD. Voilà. Donc le pauvre, il n'arrêtait pas de prescrire ça à tout le monde dans la presse. En fait, il parlait de ce traitement qui avait révolutionné sa vie parce que forcément, il était complètement perché et donc il était toujours content, toujours ravi. Et en fait, après, on s'est rendu compte que c'était du LSD. Mais c'est assez rigolo de lire ce genre de choses. Il y a aussi... le jour où E.T. a ruiné le business des jeux vidéo.
Ouais, j'ai vu ça, c'est la deuxième ou la troisième.
Ouais, alors ça c'est, je crois que c'est Atari là. Moi j'y connais rien en jeux vidéo, mais c'était une console qui marchait bien dans les années, je sais pas, 80 peut-être, qui a lancé 80, ce jeu E.T. Et en fait ça a fait un gros flop et ça a coulé la boîte. Pauvre E.T. alors que pourtant c'était un succès, mais bon, voilà.
Comme quoi les bons films ne font pas toujours des bons jeux vidéo.
Et voilà, exact. Et puis celui que j'ai bien aimé aussi, c'était Daniel Day-Lewis a disparu. Parce que, en fait, ça c'est pareil, quelque chose que je savais pas. Bon, je connais pas toutes les anecdotes sur Daniel Day-Lewis, mais après ses succès, ses premiers succès, on va dire, au cinéma, il a vraiment disparu de la surface de la Terre. Les gens cherchaient partout. La presse se demandait ce qu'il faisait. Les gens qui voulaient tourner avec lui n'arrivaient pas à le contacter. Et en fait, il était parti en Italie.
Ce qui n'est pas non plus le bout du monde. Donc
ce qui n'est pas le bout du monde. Et c'est en fait là où il a des racines, en fait, apparemment, de la famille. et il avait envie de décrocher de, voilà, de, du succès et de ce que ça engendre, j'imagine. Et il s'est retrouvé apprenti d'un tailleur, je crois, ou d'un cordonnier, enfin un truc manuel, où, voilà, où on ne l'aurait certainement pas imaginé. Il est resté, je crois, plusieurs mois, voire plusieurs années, comme ça, planqué, à se mettre au calme, au vert. Et ouais, il est revenu après en disant « c'est bon, je peux refaire des films ». Voilà, assez sympa.
Ce qui est intéressant sur le support, c'est que vraiment de l'extérieur, ça ressemblerait presque à un livre. Au niveau des formes, au niveau du format, ça ressemblerait presque à un livre. Et à l'intérieur, ils ont gardé vraiment la typographie, la mise en page, on va dire plus magazine.
Magazine, ouais.
Avec quasiment toutes les histoires qui sont illustrées. De ce que je vois, il y a quand même plus d'anecdotes de films anciens. Je me trompe peut-être, mais de ce que je vois passer
aussi,
là,
oui,
quand
que
je
j'ai
vois
vu
passer,
aussi, les, oui, quand même.
Il y a déjà pas mal de noir et blanc, et il y a même quand
il y a Tupac,
la
mais
quatrième,
bon, ça commence à dater aussi Tupac.
Bah, Tupac, bon, oui, ça reste actuel, mais pour moi, quoi.
Oui, bon.
Mais vraiment, mais support intéressant. Du coup, j'imagine que ça va peut-être plus facile à lire, enfin plus.
Parce
plus facile
qu'on
à arrêter
pas obligé,
et reprendre.
Oui, voilà, on n'est pas obligé de lire toutes les anecdotes parce que toutes ne sont pas forcément intéressantes. Et puis il y a des gens qu'on connaît pas. Hein. Moi j'ai regardé, il y a des actrices, vieilles actrices que je connais pas du tout, mais ça peut quand même être intéressant. Hein, ça peut être marrant.
C'est pas péjoratif pour moi, mais ça ferait limite un bon livre de toilette pour moi.
Ah ouais, bonne idée. On va le mettre aux toilettes à la médiathèque, ça va faire un carton. Oui, oui, tout à fait.
Et donc le dernier, qui est une BD, si je me trompe pas.
Oui.
Le Royaume au Nord.
Les Royaumes du Nord, il
oui,
est trop
pardon.
Loin.
Oh là là, non, mais c'est parce que ça brille. J'ai la fenêtre derrière moi et du coup
le reflet.
Donc les Royaumes du Nord,
tome 1.
Les Royaumes
du Nord, tome 1, qui est une BD classique, hein, donc normalement pour ados, mais c'est pareil, tout le monde peut la lire. Alors les Royaumes du Nord, c'est en fait adapté d'une trilogie de romans. Je ne sais pas si ça te parle.
Absolument pas.
Philippe Pullman qui a écrit ça il y a 15 ans, je crois. Ça s'appelait À la croisée des mondes.
Ah oui, à la
ça
oui,
te
du
parle
coup,
plus
oui.
Parce qu'en plus, ça a été adapté au cinéma. Il y a oui, eu le premier volet a été adapté au cinéma et après, ils ont arrêté parce que c'était un carnage. Et l'auteur, il a dit stop, vous arrêtez de toucher à mon œuvre, c'est nul. Donc voilà, il n'y a eu qu'un film sur trois. Et après, il a dit plus jamais on adapte mon truc. Bon, ça a été un carton, hein, cette trilogie. Donc, il a vendu je sais pas combien de millions de livres. Et voilà, forcément, on a envie de l'adapter. Et bon, bah, ça n'a pas été bien fait. Alors, j'ai pas vu le film.
Ça s'y prête un petit peu.
Oui, bah oui, c'est le genre de truc qui peut bien cartonner, quoi. Et puis, en fait, non, il a dit c'est pas possible, vous arrêtez ça tout de suite et je ne veux plus qu'on adapte mon œuvre. Et puis là, donc, c'est de Stéphane Melchior et Clément Houbrerie. Alors Clément Houbrerie, c'est lui qui dessinait Aya de Yo Pougon. C'est aussi une BD qui a été quand même qui a bien marché et qui a été adaptée aussi d'ailleurs en film d'animation. Et donc eux, ils sont allés avec leur projet et ils ont supplié Philippe Pullman et bon, vu la qualité, il a dit bon d'accord. Et effectivement, il est content du résultat.
Est-ce qu'il y a, en plus qui est pas du tout le même support que peut l'être le cinéma.
Oui.
Où on a des possibilités qui sont moindres et on a, on va dire, des... Parce que même si Philippe Pullman a pu lire le scénario avant, il ne savait peut-être pas quel acteur allait incarner le scénario. Et pour avoir vu des passages de La Croisée des Mondes, le film,
ouais.
Je pense que ça porte surtout sur les acteurs.
C'est possible.
Ils n'ont pas pris les meilleurs.
C'était pas terrible.
Ils ont pris surtout les moins chers, je pense.
Ah oui, d'accord.
Donc,
ils ont
je pense
tout
que
mis
ça
dans
a
le décor.
Un peu, et je pense que sur la BD...
Oui, bah après la BD, le souci c'est qu'on ne sait pas non plus comment ça va être, parce que c'est pareil, c'est une trilogie, ça va être un peu comme les autodafers, c'est hyper riche, c'est encore plus riche d'ailleurs. Même la BD, c'est difficile d'en parler parce qu'il y a énormément de détails, énormément de personnages, énormément de, voilà, d'intrigues dans les intrigues et tout. C'est du fantastique, c'est une grosse aventure, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et dans une BD, on est quand même restreint aussi par le nombre de pages, le nombre de cases. Et,
alors que là, il y en a quand même déjà pas mal.
Oui.
Enfin, ce que je
il
vois,
assez
deux,
épais,
deux,
ouais.
deux profils, c'est mais un peu un qui a déjà 4 pages.
Là, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Mais voilà, la presse est unanime sur la réussite de l'adaptation. Et les gens qui ont lu les romans sont en général agréablement surpris.
D'accord.
À savoir, ils ont eu un prix jeunesse à Angoulême cette année.
D'accord.
Enfin, ce tome, du moins.
On verra pour les prochains.
Voilà. Alors, l'intrigue, c'est... comment elle s'appelle ? Lyra, qui est une jeune fille, une petite fille même, on va dire. Je ne sais pas quel âge elle doit avoir, 10 ans, un truc comme ça, 11 ans. Elle est élevée à Oxford dans un espèce de lycée anglais à l'ancienne, là. Ça fait un peu Harry Potter, c'est ça. Avec uniforme et compagnie. On ne sait pas où sont ses parents. Donc elle est vraiment entourée de professeurs et elle s'ennuie ferme, la pauvre. Elle n'a pas trop d'autres enfants avec elle. Et donc elle pense qu'à faire des bêtises avec son pote Roger, qui est le garçon des cuisines, en fait, le garçon qui aide aux cuisines, mais avec qui elle est super pote. Et ils font les 400 coups, sauf que elle rêve de suivre son oncle, qui est Lord Asriel, qui est un aventurier, qui va dans les royaumes... Oui, c'est un peu, ça ressemble. Qui est un aventurier, qui va dans les royaumes du Nord, qui ramène toujours des trucs fantastiques, des trucs incroyables, qui veut jamais dévoiler ses secrets, qui a vu des trucs, mais bon, voilà, elle est trop petite pour comprendre, hein. Elle rêve que d'une chose, c'est d'aller avec lui en expédition, mais c'est trop dangereux, bien sûr, elle est trop petite. Sauf qu'en fait, ça va la rattraper plus tôt que prévu, parce que son pote Roger va disparaître. Et il est probablement, il a probablement été enlevé par les enfourneurs, qui sont les méchants en fait de l'histoire, qui ont tendance à enlever beaucoup d'enfants et à les amener justement dans les royaumes du Nord, et on ne sait pas pourquoi. Donc elle va partir à l'aventure pour essayer de retrouver son ami, et puis en plus elle est contente parce que avec une envie, c'était de partir en expédition et de quitter son vieux lycée et ses vieux profs. Donc voilà, c'est. Donc c'est le tome 1 et d'accord, on sait pas trop.
Ils ont quand même bien respecté l'histoire de base du
oui.
roman.
Oui oui, ah bah oui, ils avaient intérêt je crois.
Et vraiment du début jusqu'à la fin, parce que c'est vrai que ce qu'on a pu voir dans le film, si je me souviens bien,
oui, oui.
Ça commence
ça s'arrête au moment où
puis ça commence ça limite on a limite pas l'histoire de base de l'héroïne dans le film, c'est très très court, il y a énormément de parties sur forcément ce qui leur a coûté un petit peu d'argent, c'est-à-dire les effets spéciaux et compagnie derrière qu'il peut y avoir,
ouais.
mais là oui, j'ai l'impression que dans la BD ils ont vraiment respecté l'histoire de oui, bout en bout, je dirais pas de bout en bout vu que pour l'instant il y a que le début,
il y a quand même ils ont quand même été obligés de faire des coupes, hein, apparemment, mais l'essentiel y est et ils ont vraiment, c'était vraiment une performance d'arriver en un tome à arriver à ça, quoi.
D'accord, très bien. Donc ces quatre ouvrages, on peut peut-être rappeler les noms, donc on vient d'en parler, donc Les Royaumes du Nord, tome 1.
Au rayon BD ado.
Sofilm, Le Jour ou 30 histoires, ou 30 histoires insolites du cinéma.
Au documentaire adulte au rayon cinéma.
Alors oui, j'aurais une question après sur un documentaire en livre, ça m'intrigue.
Ah oui.
Mon frère est un gardien, Les Autos d'affaires, tome 1. Roman.
Ça, c'est dans le fond d'eau.
Et le dernier, Darwin's Games, le premier dont on a parlé, le manga
Dark.
Donc ouais, j'ai une question par rapport à un documentaire. Pour moi, un documentaire dans ma tête, c'est ou visuel. Donc ce qu'on peut voir à la télé sur Arte, des choses comme ça. Ouais, ou je sais pas, là c'est un autre niveau. Ou ça peut même d'ailleurs être radiophonique, un documentaire, mais pour moi un documentaire papier.
Et pourtant il existait avant tous les autres.
Oui, j'imagine, mais pour moi c'est des articles. Mais voilà,
des articles c'est dans la presse.
Oui.
Dans le jargon de bibliothécaire, en fait, un livre qui n'est pas une fiction, c'est un documentaire.
D'accord, tout simplement.
Tout simplement.
D'accord, bon, ouais, voilà, ça
répond à la question. De la non-fiction, c'est du documentaire, forcément. C'est ce qu'on explique aux enfants qui viennent, on leur dit, il y a la fiction et il y a la non-fiction. Quand un livre explique et apprend des choses, c'est un documentaire, comme
d'accord,
pour le cinéma,
final,
en fait.
D'accord, quand j'étais petit, j'avais plein de documentaires dans ma chambre.
Tu ne savais même pas,
d'accord.
C'est riche de documentaires.
Trucs sur les dinosaures et compagnie, d'accord, donc c'est considéré comme documentaire, très bien.
C'est un documentaire.
Et donc, pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des projets qui sont à venir à la médiathèque, les choses qui vont être possibles sur la fin de l'année scolaire, sur l'année prochaine
Alors, l'année prochaine, ça fait un peu loin, mais dans quelques jours, on accueille notre libraire préféré de la librairie Médélire à Tours, qui va venir nous parler de l'historique de la BD érotique.
D'accord.
Voilà, carrément. En fait, on est parti sur un projet du Conseil Général qui est la sexualité, qui avait pour thématique la sexualité.
Ah oui, on y a participé aussi.
Voilà, ils nous ont demandé si on voulait faire des choses, on a dit oui. Au départ, c'est vrai qu'on a eu tendance à penser plutôt prévention, sida et compagnie, et puis on s'est dit, mais crotte, il y en a marre, on est toujours en train de parler de ça, pourquoi est-ce qu'on est toujours obligé de parler des MST quand on parle de sexe? Il y a aussi d'autres choses, surtout que en littérature, il y a eu quand même 50 nuances degrés qui a fait beaucoup parler de oui. lui récemment. Qui a été adapté au cinéma, etc. Donc du coup, on s'est dit pourquoi on ne parlerait pas plutôt de la littérature érotique et notamment, pourquoi pas, de la BD. Et on a proposé à notre libraire, ça l'a bien fait rire d'ailleurs, est-ce que tu pourrais bien nous parler de BD érotique dans la bibliothèque? Eh bien oui, pour une fois qu'on a le droit, hein, voilà. Donc il va venir mardi 21 avril à 18h et c'est sur réservation parce qu'il n'y a pas non plus énormément de place, mais il en reste encore plein.
Donc pour réserver, comment?
Vous appelez la médiathèque.
D'accord, voilà. Très bien.
Ou par mail, voilà. Vous trouvez nos coordonnées sur internet.
D'accord, sur le site de la mairie par exemple.
Oui, ou de la CCVI.
Voilà. Bah écoutez, c'est le dernier gros projet de l'année.
Oui, oui.
Après c'est les vacances.
C'est ça. Après on fait plus rien jusqu'à septembre.
Bah écoutez, je vous remercie. Vous pouvez retrouver cette émission podcastée sur le site www.la-rage.fr. Et voilà, vous pouvez nous suivre toute la semaine sur le 97.4. Merci.
Merci.